Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Romain, bonjour.
Bonjour Benoît, merci de ton invitation.
Je t'en prie avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, je m'appelle Romain, je suis développeur, je suis passionné d'excellence technique et aussi de tout ce qui touche du coup à la sobriété numérique. Et à la protection des données personnelles. Voilà, en gros, c'est des sujets sur lesquels j'aime bien réfléchir, j'aime bien échanger.
Et aujourd'hui, on parle de sobriété. Enfin, je pense qu'on va être dans la catégorie sobriété numérique, avec notamment cet enjeu d'obsolescence programmée du matériel. Autant avant, c'était quelque chose qui pouvait faire du sens, voire même qui était prévu hein, derrière cette idée d'obsolescence programmée, que les fabricants faisaient en sorte qu'à un moment donné, il y ait besoin de changer le matériel. Aujourd'hui, on se rend compte que ça devient un vrai sujet. Parce que je sais pas, tu as des chiffres en tête, toi ? Moi, je m'en rends pas bien compte, mais il faut combien de minerais, il faut extraire combien de minerais, tu vois, pour un téléphone, un iPhone 14, par exemple ?
Alors, j'ai pas de chiffres en tête, mais je pense qu'il est intéressant de définir, c'est justement cette notion d'obsolescence programmée. Souvent, on a dans la tête le méchant industriel qui a prévu son coup
bien longtemps à l'avance. Oui, la vis de ton lave-vaisselle qui est faite pour casser à 2 mois après la garantie, quoi.
C'est ça, les composants qui sont collés, les choses qui sont naturellement faites pour pas être réparables ou pour casser à un moment donné. Ça c'est des choses qui existent, mais ça constitue pas en fait l'ensemble de ce qu'est l'obsolescence programmée, donc notamment dans les appareils informatiques, puisque c'est de ça dont tu voulais parler. C'est une partie, mais ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est qu'une grosse partie en fait, de cette obsolescence, elle n'est pas du tout consciente et pas du tout prévue. Typiquement, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on remplace un device, un appareil, un téléphone, une tablette, un ordinateur ? On ne le remplace pas parce qu'il ne marche plus, on le remplace parce qu'il rame. Donc, pourquoi un appareil rame ? Il rame parce qu'en fait, les logiciels qui tournent dessus deviennent de plus en plus gourmands, de plus en plus exigeants en ressources. Petit élément de comparaison, je crois que Windows 95 tout entier tenait dans une trentaine ou une cinquantaine de mégaoctets. Aujourd'hui, une image de Windows 10, par exemple, c'est au moins 5 gigas, 5-6 gigas, entre 4 et 6 en fonction des éditions. macOS, on est entre 11 et 13. Est-ce que ces systèmes sont autant de fois plus complets, plus fonctionnels, plus performants que Windows 95 ? C'est une question qu'on peut se poser. Et du coup, ça amène à la question pourquoi ces logiciels consomme plus ? Est-ce que tu as une petite idée sur la question ?
Ben moi, je dirais parce qu'il y a une forme, je sais pas le terme qui me vient, c'est une forme d'obésité du code, en fait. C'est-à-dire qu'on a une certaine... En tant que développeur, on va plutôt s'appuyer sur le travail des autres, on va récupérer des bibliothèques, on va intégrer des choses pour aller plus vite. Il y a ce besoin d'aller un petit peu plus à la feature. Et du coup, tout ça... En fait, c'est pas... T'es tout simplement pas un sujet, en fait. Moi, j'ai rarement eu la contrainte de la taille, en fait. Et donc, comme c'est pas une contrainte, comme c'est pas un sujet, on fait pas forcément gaffe, on empile, et de fil en aiguille, de petit à petit, ça fait que grossir, en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que la seule contrainte de taille qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être soit sur de l'embarquer, ou par exemple, on va avoir des contraintes d'espace disque ou de puissance très très spécifique. Mais même dans le web où on sait que le poids d'une page web est hyper important pour l'accessibilité, on va avoir des pages hyper importantes et de plus en plus importantes selon les critères des moteurs de recherche et notamment celui de Google. Mais on va quand même avoir des pages en 2022 qui sont 10 fois plus grosses. Alors j'ai plus... J'ai plus le nom de l'étude en tête, mais ça avait été mesuré précisément, donc c'est peut-être pas 10 précisément, mais on est dans ce genre d'ordre de grandeur, 10 fois plus grosse que celle d'il y a 15 ou 20 ans. Donc malgré en fait ce sujet qui est important pour une partie de l'industrie, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé, et notamment au niveau des développeurs. Aujourd'hui, c'est presque considéré comme une mauvaise pratique. Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais de réinventer la roue. On dit, bah non, tu as une lib qui existe déjà, tu as tel système qui existe déjà, te casse pas la tête à refaire. Ça sera probablement plus mieux fait ailleurs. Prends ce qui existe et empile des briques. Plutôt que essayer de faire les choses par toi-même.
Ouais, clairement, parce qu'il n'y a aucune garantie que tu feras mieux, en fait.
Il n'y a aucune garantie. Mais le problème, c'est que du coup, on arrive à une espèce d'empilement, en fait, dans le temps. Je pense que ce qui est le plus flagrant, ça va être l'écosystème front-end dans le développement, où on est passé de le front-end, c'est du HTML et du CSS, à front-end, c'est du HTML, du CSS. 3 mégas de JavaScript avec complexité énorme là-dedans, des images énormes, des vidéos, des polices, tout un panel de choses, des animations qui fait que aujourd'hui c'est compliqué de faire une application sobre, en fait, tout simplement. D'un point de vue de développement logiciel, il faut vraiment être formé, parce qu'en plus c'est des sujets un peu comme l'accessibilité qui sont pas appris, je pense, dans les cursus et dans les formations de façon générale métier de développeur, et c'est pas quelque chose qui est valorisé ni par donc à part contraintes spécifiques liées à un secteur, c'est pas valorisé par une direction, par une équipe, par un client. C'est pas des choses qui sont valorisées.
Non, clairement pas. Et puis en plus, si tu réfléchis en termes d'obsolescence et de maintenir un parc et de faire durer le matériel le plus longtemps possible, ça veut dire que toi, en tant qu'éditeur, tu es obligé d'assurer une rétrocompatibilité avec des anciens devices. Et moi, l'expérience que j'ai de mon petit studio que j'ai eu pendant une petite dizaine d'années, c'est dès que tu remontes plus d'un ou deux systèmes en arrière, bah, ça devient extrêmement coûteux, parce qu'en général, toutes les 2-3 générations, tu as des ruptures un peu fortes. Et pour peu que tu te prennes cette rupture-là, j'ai le souvenir, on avait fait une app avec un appareil photo. La version suivante du système l'intégrait complètement nativement, alors que nous, ça nous avait demandé plusieurs semaines de travail. Si on avait lancé le projet au moment où la nouvelle version était sortie, c'est clair qu'on utilisait la nouvelle API et qu'on n'aurait pas assuré la rétrocompatibilité, parce qu'en fait, tout simplement, ça coûte trop cher. Et donc il y a vraiment cette question de l'éditeur. Sobriété numérique, c'est cool, mais il est co-responsable, en fait, avec l'ensemble de l'écosystème. Et aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Et cet argent-là, en fait, pourquoi, en fait? Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête, à part par des convictions éthiques personnelles, pourquoi est-ce qu'on va se casser la tête à optimiser les choses et à assurer une rétrocompatibilité?
Là-dessus, j'avais lu... J'avais lu quelqu'un qui était hyper intéressant et qui a un peu été justement le déclencheur pour moi de l'intérêt sur ce sujet. C'est un développeur russe qui s'appelle Nikita Tonsky, je crois, si j'écorche pas son nom, qui a écrit un article, un billet de blog qui s'appelle le désenchantement du logiciel, que j'ai d'ailleurs traduit en français. Et en fait, dans cet article, il explique que l'industrie du logiciel, en fait, c'est la seule industrie qui a ce niveau d'inefficacité dans tout ce que l'ingénierie a connu. Il compare ça notamment, en fait, tu vois, au moteur des voitures, qui sont optimisés aux petits oignons pour que les cycles moteurs soient les plus performants, que la consommation par rapport à la puissance donnée ce soit le meilleur rapport. Il parle aussi de l'aviation, notamment, où tu as un haut niveau d'exigence au niveau de l'ingénierie, parce que un avion, si ça plante, ça a des conséquences dramatiques. Et il dit, voilà, c'est, logiciel, c'est le seul domaine d'ingénierie où on tolère qu'un truc puisse prendre 100 fois, 1000 fois plus de temps que ce que ça pourrait, juste parce que on n'a pas envie de se pencher dessus plus que ça.
En fait, quand tu dis on n'a pas envie, ça, on pourrait presque croire que c'est conscient. Moi, je pense que c'est même pas conscient, en fait, la plupart du temps.
Oui, quand je dis on n'a pas envie, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, on n'a pas le... mais je pense qu'il y a aussi une part de... peut-être de conscience professionnelle, et tu parlais de responsabilité de l'éditeur, je pense effectivement qu'il y a une responsabilité donc qui est partagée entre l'éditeur, entre le commanditaire, entre les porteurs de projets, entre les développeurs, mais qui est une responsabilité malgré tout, en tant qu'ingénieur, de se dire bah, « Ok, mon truc il est sous-optimisé, si j'en ai pas conscience, pourquoi j'en ai pas conscience ? Qu'est-ce qui fait défaut dans mes compétences, dans mes connaissances ?» qui fait que j'en ai pas conscience, qu'est-ce qui fait défaut dans la structure organisationnelle qui fait que personne dans l'organisation n'est capable de s'en rendre compte. Et des fois, on en est conscient, mais juste, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le budget, c'est pas important, le client n'y voit pas l'intérêt. Et du coup, quand on en est conscient, qu'est-ce qui justifie? Comment on se positionne d'un point de vue intellectuel sur tu vois, pour moi ça va un peu avec le sujet de la qualité. Tu parles beaucoup dans d'autres podcasts les sujets de la qualité logicielle, et qu'au bout d'un moment faut peut-être refuser finalement de faire de la non-qualité. Je pense que des fois on peut rentrer aussi dans ce cadre-là, et je pense que...
Alors ça j'aime bien, mais comment tu le défends en fait ? Parce que moi la dimension qualité, je peux le défendre avec des arguments qui vont convaincre un DAF, qui vont convaincre un PO, qui vont convaincre un CEO, et qui sont dans leur langage, c'est-à-dire qu'avec des retours sur investissement, avec une logique économique. Là, dans ces sujets-là, j'ai l'impression que la seule considération, elle est soit éthique, soit, on va dire, un truc qui est un peu de l'ordre de la conscience planétaire. Parce que finalement, si on crame la planète, il n'y a plus grand monde qui va pouvoir y vivre dessus. Mais le petit chef d'entreprise du coin, est-ce qu'il va payer deux fois plus cher pour ça, quoi ? Comment est-ce qu'on peut convaincre de s'intéresser à ces sujets-là, en fait ?
Je suis d'accord avec toi sur ce point, mais je pense qu'au-delà, tu vois, de la question environnementale, de la question éthique et des valeurs, je pense qu'il y a aussi la question de la culture de technique, culture de l'ingénierie aussi, qui a se posé et au niveau de l'ingénieur, au niveau du développeur. Est-ce que c'est ça que j'estime être du bon travail dans ce que je fais ? Est-ce que c'est ça que j'estime être la compétence que je peux faire, parce que même si des fois il y a des contextes où c'est compliqué, il y a peut-être probablement déjà des vecteurs d'amélioration sur ce qu'on fait déjà nous à notre échelle, et après sur les aspects éthiques et sur les aspects environnementaux, je pense que on peut pas rentrer dans un argumentaire là-dessus vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un patron. En fait, c'est plus une question de société et puis de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou pas ? Il y a des investissements qui sont faits aujourd'hui, donc c'est un aspect purement financier, dans la transition écologique. Alors, on sait que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais en tout cas, il y en a déjà qui sont là. Il y a des intérêts financiers derrière, mais il y a aussi une volonté, se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on veut ensuite ? Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller ? Est-ce que c'est ce qu'on considère être une bonne chose ? Et est-ce que c'est pas aussi des choses qui pourraient arriver dans le monde du logiciel, et des questionnements que les développeurs aussi mettent dans la balance dans les missions qu'ils choisissent, pour les travaux qu'ils veulent effectuer. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup plus de développeurs qui sont en recherche de sens dans ce qu'ils font. Je pense que c'est un sujet, justement, qui est vraiment porteur de sens aujourd'hui dans ce qu'on fait, de se dire qu'on contribue à faire en sorte que des gens puissent garder leurs appareils le plus longtemps possible, sachant que...
Là, tu commences à me parler. Là, tu commences à me parler parce que ça, c'est, ça peut devenir un discours marketing, ça peut être un élément de différenciation, que ce soit vis-à-vis des produits qu'on fabrique et de séduire une clientèle en, en s'achetant une espèce de conscience verte, et ou que ce soit auprès de développeurs qui vont être sensibles à la question, et ça va faciliter le recrutement par une marque avec des valeurs fortes. Et là, tu vois, voilà, ça, c'est pour moi, c'est un vrai argument.
Bah, sachant que, tu vois, sur l'aspect recrutement, aujourd'hui, on sait que le marché, il est très tendu sur les développeurs. On sait que recruter, ça a un coût, que perdre un bon développeur, ça a un coût énorme, que coût de formation jusqu'à un niveau optimal d'un développeur, jusqu'à son niveau de vélocité optimale, il est long, il est élevé. Donc ce genre d'enjeu pour une entreprise, ça peut être aussi un très bon moyen de participer au fait de garder ses développeurs le plus longtemps possible en leur donnant du sens dans ce qu'ils font, un sens qui va au-delà des aspects purement financiers et qui pour autant a un retour sur investissement. Le seul point que je voulais préciser justement par rapport à ça, parce que du coup je rappelle le départ du débat était parti sur pourquoi est-ce qu'on remplace des appareils technologiques aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pollution numérique, ce qui a le plus d'impact, c'est pas la vidéo, c'est pas Netflix, c'est pas ce genre de plateforme-là, c'est pas non plus la consommation qu'on fait, c'est la fabrication des terminaux des utilisateurs. Et je crois qu'on est, genre, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de trois quarts de mémoire. Donc finalement, si on veut avoir le plus d'impact dans la sobriété numérique, bah, c'est de faire en sorte que des gens puissent garder leurs appareils le plus longtemps possible. Pour te donner un exemple, moi j'ai un iPhone SE première génération, donc qui date de mars 2016. Si je devais en avoir un autre aujourd'hui, je prendrais pas celui-là, je prendrais plutôt un Fairphone, mais étant donné qu'il fonctionne encore, il n'y a pas besoin de le changer. Et aujourd'hui, je suis embêté parce qu'il fait une taille d'écran de 320 pixels de large, et la plupart des sites maintenant ne testent plus les sites sur des tailles d'écran de 320 pixels de large, parce que cette taille d'écran, on est à moins de 1% des devices du marché. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de sites que je ne peux juste plus consulter parce que quand j'arrive dessus, il y a une fenêtre modale qui s'affiche. Et puis, en fait, le scroll est désactivé et la croix pour la fermer, elle est hors de mon écran. Et il y a un certain nombre de choses comme ça, un certain nombre de sites qui deviennent problématiques pour moi à utiliser. Et finalement, en tant qu'utilisateur, bah, je me sens frustré puisque finalement, ça ne marche pas sur mon téléphone. Ce genre de choses, par exemple, ça va m'inciter à changer un téléphone pour en avoir un plus grand. Donc là, on n'est pas dans le cas où le téléphone rame, mais on est dans le cas où bah, des sites, des applis sont inutilisables, tout simplement. Donc typiquement, une des solutions à ça, c'est en tant que développeur, c'est-à-dire bah, quand je fais un design responsive, je teste sur 300 pixels au lieu de 420 ou 480 minimum. Et là, je couvre tous les devices. Et même si ça couvre que 1%, ça représente un certain nombre de téléphones qui peuvent ne pas être jetés à la poubelle pour rien.
Alors, imaginons qu'on ait convaincu un auditeur ou une auditrice de s'intéresser à ces sujets-là. Par quoi tu leur conseilles de... Ce serait quoi ton premier conseil pour démarrer sur cette voie-là et commencer à s'acculturer à cette logique et à cette dynamique ?
Je pense que c'est déjà de se rapprocher un peu d'associations et d'acteurs qui font des études sur les impacts de la... du numérique, pour débunker déjà tout ce qu'on peut voir dans les médias avec les trucs absurdes du style « supprimez vos emails parce que ça pollue ou ça produit du CO2 » ou des choses comme ça, ou les fournisseurs d'accès Internet qui veulent mettre des équivalents CO2 sur les données que vous consommez, alors que ce qui passe dans un tuyau, ça ne produit absolument pas de CO2. Déjà, essayer de se renseigner un peu, d'essayer de comprendre en fait quels sont les véritables enjeux, quels sont les véritables leviers qu'on a, quels sont les leviers les plus gros, les plus importants pour avancer dans le bon sens. Puisque ce dont surtout on n'a pas besoin, c'est de disperser en fait nos efforts vers des choses qui ne servent à rien. Donc il y a beaucoup de gens qui ont supprimé leurs emails, c'est bien, mais l'impact, il est presque nul, quoi.
Est-ce que sur ça, tu as une ressource particulière à partager ou un nom d'assoce que tu recommandes?
Alors là, je ne vais plus avoir le nom, en tête, mais je pourrais donner des liens qu'on pourra mettre dans la description si c'est possible.
Ouais, volontiers, ouais, carrément. Ouais. Ok. Toi, quel a été le déclencheur pour toi? Redis-nous sur ça, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a été le déclencheur à un moment donné de te dire « ouais, ça vaut le coup de s'y intéresser et ça me parle
bah, » C'est vraiment cet article de Nikita ouais, voilà, dont je te parlais tout à l'heure, et je pense qu'on mettra le lien aussi pour que les gens puissent le lire. Et c'est vraiment ce truc qui me dit mais en fait, est-ce que je suis fier de ce que je fais au quotidien? Est-ce que je suis fier de mon métier, de la place de mon métier dans la société, et puis de moi, ce que je fais en tant qu'individu, en tant que développeur dans mon quotidien? Et finalement, au vu de l'impact qu'a un mauvais logiciel, est-ce que je pourrais pas faire mieux? Et c'est vraiment ça qui m'a fait commencer la réflexion déjà d'un point de vue personnel. Et c'était de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les... On parle beaucoup, tu vois, des petits gestes, trier ses déchets, etc. C'était la réflexion, c'était quels sont les petits gestes que je peux faire à moi en tant que développeur qui me coûtent peut-être pas grand-chose à faire dans mon quotidien de développeur, mais qui peuvent en avoir un impact significatif sur les performances, sur le poids, sur, et donc au final sur la durée de vie des terminaux derrière, quoi.
Bah écoute Romain, je te remercie pour tout ça. Si les auditeurs veulent te suivre et en savoir plus sur ce que tu fais, t'écris, ils peuvent te suivre où?
Ils peuvent me suivre sur LinkedIn. Je parle justement de sobriété numérique, de protection des données personnelles et puis de domain driven design, donc via l'excellence technique. Donc Romain Fallet sur LinkedIn.
Je te remercie Romain.
Merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, ben écoute, je t'invite à venir nous rejoindre dans la communauté sur artisandeveloppeur.fr pour suivre un petit peu tout ce qui peut sortir sur le blog. Et je te dis à bientôt.